Gascogne FM.
Il est exactement 21h.
Que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Pendant qu'il a longtemps été reproché à l'éducation nationale de ne proposer aux enfants pour seule pratique instrumentale que de faire de la flûte à bec, il a aussi été reproché au conservatoire de ne former au seul répertoire de la musique savante occidentale. Et voilà que c'est dans la première classe de flûte à bec qui s'est ouverte dans un conservatoire national en 1994 à Lyon que s'est développée une ouverture vers les autres formes de flûte et donc vers les musiques traditionnelles qui leur sont attachées. C'est comme ça que dans le cadre d'Erasmus, une étudiante du CNSMD de Lyon a pu aller étudier à Budapest un type spécifique de flûte hongroise, la fourulia, le répertoire qui lui correspond jusqu'à la manière de l'emboucher et même de grommeler dans la fourulia, c'est-à-dire la flûte pratiquée par les bergers des Carpates. Lisa Nefari a été lauréate du prix de la recherche artistique en 2024, un prix initié par Anne de Fornel, directrice de la recherche du CNSMD de Lyon, en partenariat avec le CNSMD de Paris, l'AHEM de Genève et les MUD de Lausanne, en partenariat aussi avec Métaclassique qui accueille pour ce numéro Grommelé, non seulement Lisa Nefari, mais aussi en seconde partie d'émission, le fondateur de la classe de flûte à bec du CNSMD de Lyon, Pierre Hamon. Lisa Nefari, bonjour.
Bonjour.
Vous avez remporté ce prix de recherche artistique à la suite d'un travail de master qui était d'abord un Erasmus. Et j'aimerais bien qu'on rembobine un petit peu les étapes pour voir qu'est-ce qui vous a amené non seulement à la Hongrie et à une des flûtes tout à fait typiques de la Hongrie qui est la flûte fourulia. Tout d'abord, vous avez commencé par faire de la flûte à bec au conservatoire.
Exactement.
À l'âge de 7 ans, à un niveau assez haut, puisque vous avez été jusqu'au pôle sup à Boulogne. Et qu'est-ce qui vous a fait bifurquer vers les flûtes traditionnelles ?
Alors déjà, quand j'avais 14 ans, j'étais au CRR de Rouen. Et on a eu une masterclass avec François Lazarevitch qui nous montrait un petit peu les airs irlandais, la musique traditionnelle irlandaise, donc à travers les tin whistles, donc les flûtes traditionnelles, et son propre jeu de la flûte à bec et traversière, baroque, où il mêle cette musique traditionnelle à la pratique de la musique baroque.
Et ça a déjà commencé à déplacer quelque chose dans votre rapport à la flûte à bec ?
Oui, parce que j'ai adoré le fait... Alors, la musique baroque est libre, mais le fait d'avoir une partition, d'avoir ces notions de... Il y a des ornements à suivre, il y a une manière d'appuyer les notes, une manière de faire, une manière... C'était vraiment différent, cette musique traditionnelle, parce que beaucoup plus... déjà, tradition orale, donc pas de partition, et quelque chose qui nous permet de nous libérer un peu, en quelque sorte, quelque chose qui... Je dis souvent qu'il touche au cœur et au corps, c'est-à-dire qu'on a envie de danser, et ça nous plaît. C'est quelque chose qui plaît, de manière générale.
Si bien que dans votre formation, alors après vos études de musicologie, vous avez eu envie de poursuivre dans l'instrument, mais en élargissant votre panel, et c'est là que vous êtes arrivé au CNSM de Lyon en vous disant, voilà un conservatoire où on peut faire à haut niveau de la flûte à bec, mais aussi les autres flûtes.
Exactement, parce que le CNSM de Lyon a une spécificité, c'est-à-dire que l'ethnomusicologie a une place extrêmement importante, et je savais que moi, je voulais... effectuer ce même genre de travail que François Lazarevitch, à savoir m'intéresser à des flûtes d'autres pays et afin d'enrichir ma propre pratique de la musique baroque et tout simplement aussi parce que ça m'intéressait et que c'était une envie que j'avais.
Ouais. Et c'est là que donc vous voulez le faire dans un cadre Erasmus, donc ce sera forcément en Europe. Et comment se choisit le pays ? Au départ, vous regardez plutôt vers le nord-ouest ?
Exactement. J'avais regardé vers l'Islande et donc j'avais préparé un dossier, j'avais fait mes recherches. Et puis on m'a dit que ça allait être plutôt compliqué au niveau des recherches qui n'avaient peut-être pas forcément assez de contenu ou du moins qui seraient plus difficilement accessibles qu'à d'autres endroits, que c'était des pays peut-être moins accessibles aussi d'un point de vue financier pour des étudiants, oui. Ce genre de choses. Et donc on m'a conseillé en fait de faire mes recherches et d'essayer de trouver un pays pour lequel j'aurais un intérêt pour l'instrument, évidemment, qui serait accessible et qui réunirait toutes ces conditions.
Alors, il se trouve qu'il y a un pays qui donc, est la Hongrie, dans lequel la musique traditionnelle est enseignée aussi à un niveau académique, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pays en Europe, en fait.
Exactement. Par exemple, au CNSMD, on n'a pas de musique traditionnelle bretonne qui est institutionnalisée. Ouais. Et le fait d'avoir une musique qui, à la base, est orale et se transmet de génération en génération, de père en fils, à savoir les bergers de Hongrie dans le bassin des Carpates, c'était une chance incroyable de pouvoir être encadré dans un apprentissage qui, à la base, ne se fait pas en conservatoire.
Est-ce que vous pouvez me faire entendre une flûte fulouya ? Quand on fait de la flûte à bec et qu'on se met à emboucher une flûte comme celle-ci, qu'est-ce que ça change ? On souffle plus fort ou moins fort déjà ?
Non, on souffle à peu près de la même manière. Simplement, le fait que la fenêtre soit tournée vers l'intérieur et non vers l'extérieur, comme les flûtes baroques, ouais. On va vraiment avoir cette impression de son plus percussif, là où la flûte va être plus flûte douce, comme on l'appelle, plus calme dans le son.
Vous disiez au tout début de l'entretien que vous aviez plusieurs fulouya parce que vous aviez plusieurs tonalités, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas toutes la même taille et donc elles ne font pas toutes les mêmes hauteurs de son. Comment est-ce qu'elles sont réglées ?
Alors au niveau de la taille, si vous voulez, elles sont diatoniques, donc c'est-à-dire qu'on va avoir 6 trous pour les Dunantuli fulouya. On va essayer d'avoir une tierce et une septième neutre.
Neutre, ça veut dire juste ? Non, pas tout à fait.
Neutre, oui, pas trop haute, pas trop basse. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de la hauteur, c'est le nom qu'on donne, mais je ne saurais pas trop vous expliquer en détail mais c'est une manière de créer le trou pour... Enfin, après, je ne veux pas rentrer dans les détails de l'acoustique parce que c'est pas mon domaine.
Mais sauf que puisqu'on parle quand même d'intervalles et tout ça, est-ce que quand vous allez à Budapest et que vous trouvez des enseignants de fulouya, ce qu'ils vous enseignent, c'est à faire des gammes ?
Non, c'est vraiment des morceaux.
D'accord, direct.
Ah ouais, directement.
Ouais.
Et puis, peu importe, la tonalité, en fait, va changer. Donc, nous, on essaye de toujours jouer la même tonalité que l'enseignant, puisqu'on va avoir la même flûte.
Oui.
Donc, on va jouer la même tonalité. Mais en soi, si la semaine d'après, on prenait une autre flûte avec une autre tonalité, ça pose pas de problème.
Bien sûr. Mais sauf que... Ouais, d'accord. Parce que quand on écoute les différents collectages, on a pas mal d'exemples de gens qui font des gammes avec ces flûtes-là.
Oui, c'est vrai. Mais je pense aussi que... Parce que dans les collectages, l'objectif était d'avoir une... comment dire ? D'avoir une trace... de justement ce qu'étaient les flûtes et leur gamme. Et donc l'objectif n'était pas de prendre sur le vif, mais vraiment de demander aux personnes quel est votre instrument et comment il se joue. Mmh. Et je pense que c'est pour ça qu'on a beaucoup de gammes, à la place d'avoir des morceaux pris sur le vif du sujet. Contrairement au collectage que l'on peut avoir, par exemple, de Yuha Zoltán, où là, il va vraiment y avoir des morceaux, que des morceaux, et le nom de la personne qui joue le morceau.
Alors peut-être qu'on va écouter...
Une malochique ?
Malochique.
Jouée par András József, du coup, qui a été collectée par Yuha Zoltán en 1984.
Thank you. Qu'est-ce qu'il a fait, Yoaz Zoltán? Il a pris une partition, il a noté ce qu'il entendait?
Oui, voilà, c'est à peu près ça. Il a essayé de renoter et après il l'a remis sur ordinateur afin de lui avoir un mémo et qu'il pouvait ainsi transmettre en fait à travers une méthode que lui va suivre en suivant la tradition orale. Donc, c'est-à-dire que nous, étudiants, n'avons pas de partition. Lui va nous le jouer, nous devons répéter. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à chaque fois, s'il voit qu'on a fait une erreur, il ne va pas nous dire « tu as fait une erreur ici, tu as fait ça ». Il va nous le répéter jusqu'à temps que nous, nous comprenions par nous-mêmes où est l'erreur.
Mais comment est-ce que vous l'expliquez, qu'il ne cherche pas à localiser l'erreur ?
Parce que c'est à nous d'entendre et d'essayer de reproduire. Parce que c'est comme ça que ça se faisait à l'époque. Il n'y avait pas de... C'était pas un cours. Ça n'a jamais été un cours. En fait, les Foulouyaks se transmettaient de père en fils, des bergers, des montagnes, en fait, sur l'ensemble du bassin des Carpates. C'est la chaîne de montagnes qui entoure la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie. Et il n'y avait pas de méthode, c'était pas institutionnalisé. C'était quelque chose qui se faisait vraiment... on travaillait, on fabriquait nos flûtes par nous-mêmes, au couteau rougi, on perçait les trous. Et après, on jouait, on comparait les flûtes entre bergers. Et le père enseignait à l'enfant, mais pas une méthode comme on peut avoir en conservatoire, mais en jouant et en répétant. Et en soi aussi... Ce que Yoaz Zoltán disait qui était très intéressant, c'est qu'une mélodie, elle s'enrichissait toujours. C'est-à-dire que jamais personne ne la joue vraiment pareil. Donc même si on apprend, on essaie de reproduire au maximum, il y a toujours une petite formule, un petit ornement, un petit quelque chose qui va changer. Et c'est justement ça qui est beau, c'est la progression en fait, d'une mélodie, comment elle va évoluer dans le temps. Et c'est ça qui fait l'enrichissement de cette musique et qui est très important.
Vous dites que pendant très longtemps, ces flûtes n'étaient jouées que par des hommes et que par les bergers.
Exactement.
Mais à quelle fin ? Pour occuper les moutons ? Pour passer le temps ?
Alors, moi, je ne suis pas spécialiste sur la question, mais je pense que c'était quelque chose qu'on retrouve souvent. La flûte, ça a toujours été pastoral. Il y a toujours eu quelque chose avec la flûte pour mener les bêtes. Oui, c'est vrai.
Ouais.
Mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de la séduction aussi pour les femmes. On voit dans les écrits, par exemple, il y a Yanos Manga qui explique que plus une flûte était taillée avec de jolis motifs et plus le son était beau et plus une femme pouvait se marier. Il dit vraiment ça dans ses écrits. On pouvait vraiment trouver un homme, un mari de cette manière. Et je pense aussi que oui, c'était un héritage à transmettre de père en fils et aussi de la région dans son ensemble. Et c'est pour ça qu'on comparait les flûtes aussi.
À l'Université de musique et des arts de Budapest, pendant 6 mois, donc vous avez suivi des cours notamment de Fuluya, vous aviez plusieurs professeurs. Est-ce que vous avez pu noter une différence d'enseignement entre les cours que vous donnez par exemple Yoaz Zoltán et puis ceux de Heredich David?
Oui, parce que Yoaz Zoltán, c'était vraiment le côté traditionnel, dans le sens où lui, il a rencontré les bergers, il a fait des collectages, il avait vraiment à cœur de retranscrire ce qu'il avait vécu avec beaucoup de réserve, on peut dire, dans le sens où il voulait vraiment que ce soit authentique. Et donc même lui prêtait vraiment attention à ce que ce soit comme on lui a appris, comme il l'a entendu. Et c'était très important pour lui, par exemple, que les flûtes soient fabriquées en bois. Donc ça pouvait être en bois de sureau, de cerisier. Et dans la tradition de ce que l'on a pu retrouver et de ce que Charles Zibalind, qui était une personne qui a vraiment œuvré pour la culture traditionnelle populaire hongroise, qui a reçu le prix Chekeni, qui est le prix réservé aux personnes qui ont vraiment œuvré pour cette recherche de la musique populaire. Et donc, il avait vraiment à cœur de retranscrire des choses authentiques, autant par les flûtes que par les morceaux, que par les ornements, la manière de jouer, la manière de poser les doigts, le fait de ne pas reprendre quand il y avait une erreur, ce genre de choses. Tandis que David Heredich, qui est... un petit peu plus jeune et qui fait partie d'un ensemble qui s'appelle Schöndergö. Lui, il a vraiment à cœur de faire de la musique d'ensemble. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Fuluyaks, elles se jouent seules. C'est des instruments qui se jouent seuls, les bergers les jouaient seuls. Il n'y avait pas forcément d'accompagnement. Et c'est avec le temps, après, qu'il y a eu de l'accompagnement. Et donc là que s'est posée la question de la justesse, notamment. Puisque pour jouer avec les autres instruments, il fallait quand même accorder les flûtes. Sauf que quand une flûte est accordée que d'un seul bois et qu'il n'y a pas de partie vissable, on ne peut pas dévisser pour que ce soit un peu plus bas, un peu plus haut. Enfin, on ne peut pas trop modifier, à part par le souffle, si on souffle un peu plus ou un petit peu moins. Et donc, il m'a recommandé, moi, personnellement, d'acheter des flûtes auprès de Daniel Bolia, qui est un facteur de Fuluyak, qui a eu à cœur de garder cette tradition du son et du jeu, donc notamment par la fenêtre tournée vers l'intérieur de la flûte sur laquelle on va poser la bouche, qui est le jeu traditionnel que l'on pratiquait également avec Yoaz Zoltán. Et l'objectif était donc de jouer des flûtes pouvant s'accorder avec d'autres instruments à 440. Donc, ce qu'on va appeler le bec va être en résine. On va pouvoir le visser sur la flûte ou le dévisser en fonction afin de pouvoir s'ajuster et jouer avec, avec d'autres instruments. Donc, c'était vraiment deux manières un petit peu.
Est-ce que vous pouvez remontrer comment vous embouchez cette flûte ? Alors, à la radio, il va falloir décrire. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la fenêtre, hein, c'est par là que le son sort, même s'il sort par les trous et par le bout. Mais au lieu que dans la flûte à bec, il parte vers le devant, là, il revient vers le menton.
On peut dire ça. Vers le menton.
Ouais.
C'est ça.
Et ça fait que le son, vous le réglez aussi dans l'angle que vous donnez entre la flûte et vous
ou... Exactement. Ouais. Le placement de la bouche est très important, parce que si on bouge trop avec la bouche, y a pas de son qui sort.
Ouais.
Si on bouge pas assez, il n'y a pas assez de ce son, on peut dire, grommelant un petit peu. Et si on fait entre les deux, il faut le juste milieu, on va dire. Donc, il y a quelque chose à trouver.
Vous avez circulé dans la Hongrie avec Annie Ploquin-Rignol, qui était prof au conservatoire de Perpignan, qui vous a donné votre première foulouilla, et vous avez été rencontré avec elle des facteurs traditionnels. Quelle est la différence entre les facteurs traditionnels et puis par exemple Daniel Bollia ?
Exactement, avec Annie Ploquin-Rignol, on a beaucoup voyagé, donc j'ai eu la chance qu'elle, parce que moi j'avais pas de voiture, elle est venue en voiture, donc ça m'a permis de voir des lieux que je n'aurais peut-être pas pu voir seule.
De sortir de Budapest.
Sortir de Budapest, on peut, mais en train, il n'y a pas forcément tout qui est couvert. Et là, on est parti vraiment dans l'est de la Hongrie, donc on a rencontré Gergely Szőcs. Alors je suis désolée pour le nom, j'espère qu'il ne m'en voudra pas décorcher autant. Mais un facteur vraiment qui était également très attaché à la tradition hongroise, à la manière de fabriquer les flûtes, et qui avait vraiment à cœur de transcrire ce qu'il avait connu, ce qu'il avait vécu. Donc les bergers qui... Aujourd'hui, on n'a pas de berger référence, puisque la tradition se perd un peu, mais des personnes comme notamment les facteurs de Foulouillac tentent vraiment de retrouver cette esthétique, cette manière de fabriquer et de jouer de ces flûtes. Et le fait d'être accompagnée de Annie, déjà, on est rassuré parce qu'on voyage et qu'on n'est pas toute seule. Et donc, c'est super. Et d'avoir quelqu'un de référence qui déjà s'est intéressé à beaucoup de flûtes, qui connaissait déjà la flûte un petit peu avant, pour rencontrer des personnes de référence, c'était vraiment très intéressant.
Est-ce qu'il y a une différence fondamentale pour vous, Lisa Nefari, entre votre vécu d'un cours à Budapest quand vous êtes avec la Foulouilla et votre vécu d'un cours de flûte à bec quand vous êtes au CNSM de Lyon ?
La plus grande différence, c'est la tradition orale et la tradition écrite.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de partition ?
Il n'y a pas de partition. Donc là, il y a vraiment l'échange, le contact, on va dire. Parce qu'on est face à face, toujours.
Ouais.
Donc une table ou pas de table, peu importe, assis sur une chaise, et c'est vraiment... on est connecté, on écoute, on est vraiment attentif et du coup ça va très vite.
Ouais, parce que ça
va très vite, voilà, c'est ça.
Alors, Lisa Nefari, on a fait exprès de se retrouver au salon de musique de l'Académie Villecroze qui nous accueille tout à fait généreusement pour pouvoir disposer du piano et de votre complice Marie-Louise Tocco, la pianiste qui va vous accompagner dans une mélodie. Alors, qui vient d'où ? De Bartok qui l'a collectée puis harmonisée au piano.
Alors, c'est trois mélodies traditionnelles hongroises de la région du Tchik. Donc, c'est une région, en fait, qui se situe dans le nord de la Roumanie. Il faut savoir que c'est les Tchango Moldaves, donc Moldva, Moldave. On voit les deux noms, ça, souvent, les partitions. Et donc, ça fait référence à cette minorité ethnique de tradition hongroise où ces morceaux, ces pièces sont... jouées, sont pratiquées, sont transmises et que Bartok a souhaité collecter et que mon enseignant également a collecté, dont l'extrait que l'on a écouté en début d'interview. Et donc, ce sont trois mélodies traditionnelles de la région du Tchik que Bartok a réarrangées.
Qu'il a entendu. Alors oui, lui, il l'a entendu jouer sans doute sur une foulouilla et puis vous, lui, il l'a transcrite au piano et vous, vous en retirez la ligne de chant pour pouvoir la jouer avec
Marie-Louise. Exactement.
Marie-Louise. D'accord. Thank you.
la fin, je le connais.
Oh, je te refais l'introduction. Ouais. Quand tu veux.
Après, on a quelques minutes d'interview parce que je repense à d'autres questions.
Ok, ça marche. Ouais. On entend dans le jeu que bah déjà c'est pas la même façon d'emboucher la flûte, donc j'imagine aussi de projeter l'air dedans.
Exactement, sur les foulouillacs, on va avoir cette fenêtre de toute façon qui est tournée vers l'intérieur, sur laquelle nous allons poser notre lèvre inférieure, et notre lèvre supérieure, elle, va se coller sur le bloc de la foulouilla. Donc forcément, l'émission ne va pas être la même que lorsqu'on a le bec d'une flûte à bec baroque qui va venir, lui, entièrement dans la bouche et sur lequel on va pouvoir effectuer un vibrato avec un son de gorge ou avec de l'air à travers les joues en soufflant un petit peu plus ou un petit peu moins. Ou à la foulouilla, on va pouvoir, à contrario, avec sa main, à force de la bouger, faire vibrer la lèvre qui est directement posée sur l'endroit d'émission, donc à savoir la fenêtre de la foulouilla.
Ah oui, donc on fait vibrer en bougeant la flûte plutôt qu'en bougeant la lèvre,
oui,
en quelque sorte.
Oui, c'est plus ça, ouais. Exactement.
Et l'envoi de l'air, vous dites, on joue avec de la ligne, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire chaque note est soufflée, mais n'est pas individuelle. C'est-à-dire que chaque note fait partie d'un ensemble, d'une phrase musicale.
C'est-à-dire que la musique hongroise est pour vous une espèce d'école de legato qui va ensuite vous servir, y compris dans le répertoire occidental ?
On peut dire ça, mais même, c'est pas forcément legato, il y a une conduite de phrase, parce qu'il peut y avoir des notes, par exemple, coupées.
Oui.
Ou alors plus saccadées.
Oh, on entend que c'est très rythmique, d'ailleurs.
Exactement, c'est exactement ça. Mais ça fait toujours partie d'un ensemble. La musique se joue très rythmique, mais elle fait partie toujours d'une phrase musicale, et moi, ce que j'appelle une ligne.
Mais alors, qu'est-ce que cette expérience, on pourrait presque dire ce détour par la foulouilla, va changer dans votre rapport à la flûte à bec pour jouer des compositeurs tout à fait occidentaux comme, je sais pas, Bach ou Telemann ?
Je trouve déjà que le fait d'avoir eu une pratique orale, ça ouvre énormément, ça nous permet d'être plus concentrés sur la musique, d'avoir par exemple un son beaucoup plus fourni. Chaque note, en fait, va avoir plus de contraste, on va pouvoir mettre... plus de sensibilité. On peut déjà en mettre énormément, évidemment, en musique baroque, mais le fait d'avoir la pratique orale nous permet d'être plus concentrés sur d'autres choses que la partition ou les notes. Et donc, ce que j'ai souhaité faire, c'est des deux côtés. D'abord, apprendre, évidemment, cette flûte, ses caractéristiques, son jeu, sa manière de jouer. La retranscrire, en quelque sorte, à la flûte à bec soprano, donc c'est-à-dire, par exemple, reprendre des ornements, reprendre des éléments rythmiques, ce genre de choses. Mais j'ai également pris des mélodies traditionnelles hongroises que j'ai jouées, moi, à la flûte à bec soprano, pour essayer de voir qu'est-ce que chacune de ces pratiques pouvait s'apporter l'une l'autre.
Ah ben on pourrait peut-être essayer de faire entendre à la flûte à bec
avec plaisir.
Ce que donne l'une de ces mélodies. Et donc ça, c'est un air hongrois collecté par l'un de vos professeurs et que vous jouez ici à la flûte à bec.
Alors ça, c'est pas un air collecté par un de mes professeurs, mais ça fait partie d'un recueil où mes professeurs connaissaient en effet ces joueurs de Foulouillac et d'autres étudiants qui m'avaient conseillé d'acheter ce recueil parce qu'ils répertoriaient déjà des mélodies qui font partie, par exemple, des recueils de mes enseignants et qui permettaient, moi, d'enrichir mon répertoire. Parce que évidemment, j'apprécie beaucoup mes enseignants et je suis tout ce qu'ils me donnaient, mais c'était intéressant aussi pour moi de voir si je pouvais essayer de suivre d'autres pistes pour trouver d'autres airs et enrichir tout simplement mon panel d'airs.
Le spectre.
À connaître. Exactement.
Pierre Hamon, c'est vous qui avez vu arriver un jour Lisa Nefari au CNSM de Lyon dans une classe de flûte à bec que vous avez créée dans ce conservatoire en 1994. C'était la première fois qu'un conservatoire national avait une classe de flûte à bec ?
Oui, un conservatoire national supérieur.
Oui, hein.
Oui puisque en fait, une telle classe n'a jamais été créée finalement au conservatoire de Paris. Et Lyon, il faut dire, c'était spécialisé dès le début, en fait, donner une importance à la musique médiévale et renaissance également. Alors que le conservatoire de Paris était plutôt, on va dire, dans la musique baroque, musique classique. Et donc, pour le département entier, il semblait vraiment important d'avoir une classe de flûte à bec. À
Lyon. Ah oui, donc le positionnement sur la musique ancienne crée un effet d'aubaine pour les flûtistes.
De la flûte à bec, ouais. En fait, c'est vraiment au départ la musique renaissance. Surtout, et puis évidemment, il a continué dans le baroque, mais la grande période de la flûte à bec, c'est la période aussi des jeux en consorte avec la musique renaissance.
Alors, sauf que un flûtiste à bec n'a jamais qu'une seule flûte, et ce faisant ne touche jamais qu'à un genre musical, j'ai l'impression.
Oui, c'est tout à fait vrai. Bon, d'abord parce que le répertoire de la flûte à bec s'étend donc, on va dire, du Moyen Âge jusqu'à maintenant la musique contemporaine, avec un énorme trou. Pour toute l'époque romantique.
Oui, le 19e siècle a boudé cet instrument, on peut dire.
Oui. Il a continué à exister sous forme de flageolet, on va dire, mais un instrument plus populaire que l'on jouait dans les cabarets, par exemple. Mais la flûte à bec elle-même, elle commence vraiment à avoir, je dirais, sa fin, même au début du 18e siècle, où le traverso prend une importance beaucoup plus grande.
Mais ça veut dire qu'on en joue partout, sauf dans les salles de concert, finalement, de cet instrument.
Alors, on en joue partout, c'est-à-dire...
Oui, c'est ça.
C'est resté un instrument populaire sous forme de flageolet ou même de flûte à bec. On peut trouver des flûtes à bec 19e.
Alors, quand je dis partout, c'est aussi au-delà des frontières de l'Europe de l'Ouest, quoi.
Oui, bien sûr, parce que c'est le système du sifflet. Donc avec ce sifflet, c'est un instrument que l'on retrouve un petit peu partout dans le monde. Alors ce qu'on appelle, nous, les Anglais ont un nom en fait spécifique pour ce que nous appelons souvent la flûte à bec, c'est recorder. Et c'est un instrument qui a un trou de pouce derrière. Donc c'est un instrument qui se distingue, on va dire, des flageolets, par exemple, à six trous que l'on peut trouver dans la musique irlandaise.
Qui s'appelle le tin whistle.
Oui, le tin whistle, c'est un instrument, une sorte de pipeau, on va dire, à six trous. Et ce type d'instrument, on le trouve absolument partout, quoi, un peu partout même dans le monde. Et la flûte à bec, avec son trou de pouce derrière, a été probablement inventée pour obtenir en fait une homogénéité du son dans l'aigu. Parce qu'avec les flûtes à six trous, il faut souffler plus fort pour obtenir
Il faut souffler vraiment beaucoup plus. Voilà. Ouais. Mais alors, moi, la question que je me pose, c'est que vous arrivez en 1994, vous prenez une classe de flûte à bec au CNSM de Lyon. Quelle place vous faites au pipeau, précisément, aux musiques irlandaises, aux musiques qui peuvent venir aussi d'Europe centrale, dans votre enseignement, dans ce que vous transmettez aux élèves?
Alors, au début, je vais dire, je me suis quand même vraiment concentré sur la flûte à bec. J'étais engagé pour donner un cours de flûte à bec. Donc vraiment, en commençant au Moyen-Âge, parce que moi, c'est vraiment une période que j'affectionne particulièrement. Dire que la grande période de la flûte à bec, c'est peut-être la période de la musique renaissance, où on a trouvé probablement les plus grands virtuoses de l'instrument. Avec, il y a une méthode qui s'appelle Ganassi, en fait, qui est un traité qui date du XVIe siècle, en fait, de la première moitié du XVIe siècle.
Le même qui théorise la diminution.
Voilà, exactement. C'est un traité de diminution. Et on voit qu'effectivement, il y avait des virtuoses incroyables à cette époque de l'instrument. C'est-à-dire la plupart, d'ailleurs, des flûtistes, ensuite, par exemple, même si vous prenez l'orchestre baroque, sont des joueurs aussi de hautbois, ou de basson, ou de traverso. Et la flûte à bec, peu à peu, va devenir vraiment une couleur spécifique. C'est le cas, que, par exemple, de Bach pour ses cantates. Alors que à l'époque du XVIe siècle, on a d'abord en fait un instrument qui fonctionne en consorte, donc en ensemble, avec des différentes tailles de flûte pour imiter la voix. Donc c'est toute cette grande époque de la polyphonie. Et on peut dire que c'est la grande époque de la flûte à bec aussi. Et d'ailleurs, dans les livres de contes, on voit que les gens achetaient des ensembles d'instruments à chaque fois. C'était vraiment les flûtes à bec se vendaient, je dirais, rarement à l'unité. Au début, évidemment, j'ai vraiment commencé à enseigner en me concentrant vraiment aussi sur cet instrument qui méritait sa place dans les conservatoires nationaux supérieurs. Et c'était la création de la première classe de flûte à bec en France, en Conservatoire National Supérieur.
Alors ça, ok, mais est-ce que déjà, il y a eu un tin whistle qui a débarqué dans vos cours à un moment donné?
Ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai toujours joué un certain nombre d'autres flûtes traditionnelles aussi du monde, et je me suis intéressé de près à pas mal d'instruments. Donc, et les élèves, évidemment, les étudiants savaient ça. Donc, en général, ce qui se passait, c'est que si un étudiant était intéressé par une des autres flûtes que je pratiquais, voilà, en général, il me demandait l'autorisation, éventuellement, de pouvoir aussi travailler sur cet instrument. Et moi, en général, je les encourageais, effectivement, à s'ouvrir, parce que c'est une ouverture pour toutes ces autres musiques. Et moi, je suis conscient, en fait, de tout ce que ça m'a apporté, même au niveau, justement, de l'imagination du son, le fait de pratiquer
De la conscience du geste aussi, c'est ce que nous a expliqué Lisa tout à l'heure, c'est-à-dire que de jouer cette flûte hongroise l'a amené à complètement revisiter son jeu de la flûte à bec.
Oui, bien sûr, oui, oui. Et donc, voilà, j'ai toujours encouragé les étudiants à s'intéresser, en fait, à d'autres instruments. Mais principalement, je dirais, ma fonction, c'était quand même d'être d'abord professeur de flûte à bec, parce que le répertoire est quand même très vaste. Si on commence au Moyen-Âge, Renaissance, Baroque, et puis ensuite tout le répertoire de musique contemporaine pour l'instrument.
Et alors, quelle est la part que ça a pu prendre chez certains ou certaines d'entre eux ?
Ben, chez certains, prenons le cas de Lisa. Lisa est arrivée en master à Lyon. Donc finalement, elle n'est restée, on va dire, que 2 ans au Conservatoire de Lyon. Et encore pas 2 ans, puisqu'elle a fait un Erasmus en Hongrie. Donc c'est uniquement quelques mois. Alors moi, j'ai eu la chance de la voir pendant quelques mois et puis ensuite, j'ai pris ma retraite du conservatoire de Lyon. Et donc, c'est Thiago Simas Frère qui m'a remplacé au conservatoire, qui a pris la suite. Mais on peut dire, moi, je l'ai eu pendant 3-4 mois. Et puis, il y a eu une période de transition quand même où c'était Sébastien Marc qui est venu pour donner des cours. Et puis ensuite, elle en fait, je crois déjà, elle était partie en Hongrie. Et en tout cas, Thiago aussi, je crois, ne l'a eu réellement que 3 mois.
Mais alors, quand on a une étudiante comme elle qui débarque, ça veut dire que on ramasse sa méthode Gassani?
Elle est venue à Lyon, justement, vraiment intéressée par une ouverture. Et au début, même lorsqu'elle est venue, on en avait discuté, elle voulait en fait s'intéresser à d'autres flûtes du monde, mais elle ne savait pas encore vers quelle flûte elle allait se tourner. Moi, je pratique aussi beaucoup les flûtes d'Amérique du Sud. Alors, j'ai pratiqué également la flûte bansuri de l'Inde, parce que j'ai étudié avec Hari Prasad Chaurasia. Et puis, depuis une quinzaine d'années, je suis vraiment passionné par toutes les flûtes d'Amérique du Sud et centrale et tous les instruments préhispaniques. Donc dans un premier temps, même, elle était très intéressée par cet instrumentarium. Mais en faisant le tour, en prenant conseil aussi auprès du professeur d'ethnomusicologie qui, justement, allait la suivre, qui allait être son professeur référent pour son master. Donc, c'est Fabrice Contry. Et lui, finalement, qui avait aussi plus de liens avec l'Europe de l'Est, lui a conseillé, en fait, de s'intéresser aux flûtes de Hongrie. Et puis aussi parce que, vers là, il y avait des possibilités d'avoir des périodes Erasmus.
Parce qu'il y a un enseignement académique de cet instrument, ce qui n'est pas le cas de toutes les flûtes traditionnelles.
Voilà,
Elles ressemblent à quoi, les flûtes préhispaniques? Elles ont une différence morphologique importante avec celles qu'on connaît?
Il y en a des dizaines de milliers, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ça va des ocarinas, oui, à des objets sonores qui sont certains comme des sifflets, d'autres sont comme des flûtes. On a des flûtes de Pan, par exemple, en céramique de la civilisation Nazca, qui sont avec des séries de notes, puisqu'on ne peut pas appeler ça des gammes, puisque gamme, ça vient vraiment de notre conception de la musique et de la Grèce. Mais des séries de notes tout à fait étonnantes. Et on est vraiment à 10 000 lieues de la musique andine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc ces flûtes, par exemple, de Pan, Nazca, qu'on trouve avec des tailles, des dimensions très différentes, sont toutes aussi, je dirais, différentes. C'est-à-dire, on les a retrouvées en général dans des tombes. Et dans une tombe, vous pouvez avoir un ensemble de flûtes, toutes accordées entre elles, avec une série de notes vraiment très étonnantes. On a une impression, je dirais, à les jouer, d'être plutôt dans une sorte de modalité même orientale. En tout cas, on est très très loin du pentatonique de la musique andine, et avec des notes qui parfois peuvent avoir un quart de ton entre elles.
Comment on le découvre, ça? Parce que n'ayant pas forcément de référence discographique, si c'est alors, à l'oreille, on peut pas savoir si c'est que la flûte est fausse ou si c'est... Parce que,
oui, ouais. Alors si on peut en fait savoir, en tout cas, c'est-à-dire au niveau justesse, ce que je vous disais, qu'on peut trouver des ensembles de flûtes qui sont où les flûtes sont toutes accordées entre elles. Donc si l'accord de ces flûtes...
S'il y en a une qui correspond moins, oui.
Vraiment, ils recherchaient... Exactement cette série de notes, qui était peut-être un symbole du défunt. Ça reste un mystère, en fait.
Vous voulez dire que potentiellement, la répartition des intervalles
dépendrait pas impossible, de la sépulture. C'est pas impossible, puisque d'une sépulture à une autre, les intervalles étaient différents. Donc, voilà, pour quelles raisons? Et moi, je suis allé étudier, par exemple, et relever même toutes les flûtes qu'il y a dans les réserves du musée du Quai Branly, où ils ont une collection de flûtes assez incroyable.
Il y en a combien?
Je ne sais pas, mais ils en ont une quinzaine de flûtes Nazca, dont des flûtes qui ont presque un mètre de certains tuyaux qui ont un mètre de longueur, des flûtes très grandes, avec certaines petites, certaines grandes, et elles ont toutes, absolument toutes, là, des gammes différentes. Toutes. Alors évidemment, on ne sait rien sur la musique. Hein. Donc lorsqu'on a ces instruments, mais moi c'est ce qui m'avait vraiment intéressé, c'est un accès, je dirais, d'abord un accès à des instruments qui ont parfois 2000 ans. Et comme je vous disais, il y en a beaucoup. C'est quand même relativement possible de pouvoir faire sonner et souffler dans ces instruments, soit des instruments de collection privée, soit moi j'en ai trouvé en fait également des instruments originaux qui s'échangeaient de vente aux enchères dans des collections privées et qui n'étaient par rapport aux instruments baroques actuels, c'est-à-dire si je voulais une flûte à bec baroque, c'est devenu quasiment impossible. En plus, bon, ces instruments-là, d'une certaine manière, en étant en terre cuite et en céramique, bougent moins, on les abîme moins que les flûtes en bois. C'est-à-dire les flûtes en bois, bien sûr, de nos jours, si on a une flûte en bois historique, il ne faut pas y toucher parce que, il faut la conserver pour ceux qui vont suivre après nous. Mais donc, ces flûtes, évidemment, on ne sait rien de la musique qu'ils jouaient. Donc, c'est vraiment un accès aux instruments. Le fait de faire sonner ces instruments, c'est un accès au son. Et moi, c'est une des choses qui m'a passionné avec cet instrumentarium précolombien et hispanique, c'est d'avoir accès à des instruments aussi originaux, et puis également évidemment des copies, mais de jouer sur des séries de notes ou des gammes qui sont loin de notre gamme. Donc c'est une démarche, je dirais, presque aussi un peu comme en musique contemporaine. C'est-à-dire, je prétends pas du tout, quand j'utilise ces instruments, faire de la musique préhispanique. Simplement, je fais sonner ces instruments. Et voilà.
Mais vous, Pierre Hamon, vous avez combien de flûtes chez vous?
Ah, je sais pas, jamais compté, mais j'ai des tiroirs. Ma maison est trop petite. J'ai des tiroirs.
Vous avez presque plus de flûtes que de livres.
C'est pas impossible. J'en ai pas mal aussi des livres, mais c'est vrai que les tiroirs sont pleins, quoi.
Et vous les avez toutes montrées à Lisa,
Macaray? Non. Quelques-unes.
Oui.
Mais
justement, en orientant directement vers les zones du monde qui l'intéressaient.
Oui. Non, mais disons que. Moi, je l'ai poussée dès qu'elle a eu cette idée, en tout cas, d'aller vers les flûtes hongroises que je ne pratique pas. Hein. Moi, j'ai trouvé que c'était une excellente idée, mais là, je ne pouvais plus vraiment lui apporter, je dirais, en tant que professeur. Il fallait
flûte que vous pratiquez pas.
Voilà, exactement.
Mais vous avez de ces flûtes dont la fenêtre, en effet, va vers le menton.
Oui, oui, oui.
Parce que elle semblait dire que ça suppose une position de la bouche très différente.
Oui, c'est-à-dire qu'on peut... Alors, je dirais, dans les flûtes, même préhispaniques que j'ai un certain nombre d'ocarinas qui ont ce type de sifflet. Oui. Et donc, avec le menton, c'est-à-dire avec, comme le sifflet est vers le menton, suivant l'inclinaison, on peut jouer également à la fois sur la couleur du timbre, le son, mais aussi sur la hauteur du oui. timbre. Donc, effectivement, c'est un jeu où on fait intervenir, on se sert en fait de cette position pour à la fois changer éventuellement le timbre et aussi avoir quelques notes, par exemple, un peu plus graves.
Parce que le timbrage, il reste interne à la bouche, à la flûte à bec classique, alors qu'il devient dans le maniement de l'instrument lui-même sur ces instruments-là.
C'est exactement. On utilise ce type aussi de jeu à la flûte à bec, par exemple, sur un certain nombre de pièces contemporaines. C'est qu'on on passe la main par-dessus le biseau ou dans la fenêtre de la flûte à bec. Et donc, en passant la main, on peut baisser le son, et on peut jouer sur à la fois le timbre aussi et la hauteur du son. Et donc, en fait, c'est exactement le même mouvement, sauf qu'on le fait avec le menton.
C'est ça. Et alors, elle évoque aussi une question de grommellement. C'est comme s'il fallait grommeler pour obtenir un son de ce genre de flûte.
Oui, alors là, bon, peut-être qu'elle vous en a parlé mieux que moi. C'est-à-dire que suivant la position, si moi je dirais, je peux parler uniquement des flûtes que moi je connais, hein,
oui,
mais où avec ce sifflet tourné vers le avec la fenêtre tournée vers le menton, c'est-à-dire suivant la position, on peut faire effectivement une sorte de grommeler un peu le son, c'est-à-dire on obtient des perturbations dans le son. Alors elle parle peut-être de ça. Je sais que également sur un certain nombre de flûtes justement de Hongrie, on peut utiliser aussi la voix, on peut chanter dans la flûte pour obtenir une sorte de bourdon et de grommellement du bourdon. Donc on obtient un son justement qui est un peu différent de ce point de vue-là.
Mais ça en soi, on peut le faire avec une flûte à bec.
Et ça, on peut le faire avec une flûte à bec, tout
ouais.
à fait.
Sauf que les compositeurs ne le demandent que rarement, c'est tout.
Oui, non, en musique contemporaine,
on le demande le fait. De plus en plus.
Oui, ouais. bien sûr.
Et vous grommelez davantage dans vos
oui.
flûtes?
Alors, oui, bien sûr, mais, y compris même en musique médiévale, où j'ai des pièces où j'utilise beaucoup la voix aussi, pour justement obtenir ce type de son. Disons que d'abord, on sait que ça s'est fait historiquement, mais même très tard, c'est-à-dire Marin Mersenne, au XVIIe siècle, pour la flûte à bec, il dit qu'on peut faire deux voix, c'est-à-dire en jouer une, et chanter l'autre en même temps. Donc, bon, c'est peut-être anecdotique, hein, mais voilà, on a une preuve qu'au XVIIe, peut-être d'une manière un peu fantaisiste, en tout cas.
C'est une manière de faire polyphonie.
Voilà, on pouvait s'amuser à faire ce type de polyphonie. On trouve quand même ce type de jeu dans un certain nombre de musiques traditionnelles, également des flûtes de berger, par exemple, en Afghanistan, ou Rajasthan aussi, je crois, où on chante justement dedans pour obtenir un bourdon.
Ah oui, on fait le bourdon vocalement pendant qu'on module avec la flûte.
Voilà. Ouais. Mais avec, effectivement, les flûtes à bec, on peut faire ceci. On peut également chercher un autre type de voix, un peu comme si vous aviez, je dirais, faire oui, un petit contrepoint. Tout à fait. Et le son que l'on obtient, c'est un son, on pourrait dire, qui est un son pour nous, évidemment, sale, mais finalement, qui pourrait correspondre un petit peu plus aussi au son qu'on peut avoir parfois sur la vielle. Ou par exemple, si on prend les harpes au Moyen-Âge, qui avaient des harpions. C'est une manière de faire zinguer les cordes pour prolonger le son. C'est un son qui aussi, de notre point de vue, je dirais, plus moderne ou romantique, et plus sale, mais qui était quand même apprécié à l'époque. Les tambours également, par exemple, ont tous un timbre. Donc, on voit ces reproductions de tambours à la Renaissance, d'ailleurs aussi, et au Moyen-Âge. Et ce timbre fait également zinguer. Donc, on peut penser que ce type de son plus sale ou ça zingue était un son qui pouvait être apprécié au Moyen-Âge. Et moi, j'utilise aussi ces techniques pour un certain nombre de pièces médiévales.
Alors, est-ce qu'on peut dire que parce que c'est un instrument d'héritage pastoral, alors la flûte est toujours beaucoup plus multiculturelle qu'on ne la pratique ?
Mais je crois, c'est-à-dire d'abord, c'est peut-être le plus vieux des instruments, avec évidemment les instruments percussions, hein, puisque oui. Au niveau préhistorique, on a quelques, même peut-être de Néandertal, on a quelques flûtes, ou quelques morceaux de flûtes. Mais en tout cas, pour Homo sapiens, oui, disons des flûtes qui datent d'il y a 25 000, 30 000 ans, on en a vraiment plusieurs. Et c'est un instrument que l'on... Alors, évidemment aussi, avec tous les, je dirais, les roseaux, avec tous les matériaux organiques creux, on peut très, très facilement obtenir un son. Il met en branle, je dirais aussi, enfin, on le fait sonner avec le souffle, qui est vraiment aussi la source de la vie, donc la chose la plus naturelle, je dirais, après le chant, quoi, évidemment. Donc c'est un des plus vieux instruments qu'on trouve absolument partout dans le monde.
Ah donc vous diriez même que cette espèce de grommellement qu'on commente là depuis tout à l'heure, il a été potentiellement archaïque, oui, à l'origine même de l'usage de la flûte.
Oui, ouais, oui. Ouais. Ah oui, moi j'ai par exemple...
On vocalise dedans avant que de le faire siffler.
Ouais. J'ai un témoignage comme ça par un des premiers ethnomusicologues américains, en fait, au début du XXe siècle, Jaime de Angulo, qui a vécu dans des tribus amérindiennes du nord de la Californie, dans des tribus qu'il n'avait quand même pas vu beaucoup encore d'hommes blancs, et qui dit... alors, il a vraiment vécu, même de longues années, il s'était installé après dans certaines de ces tribus, et il décrit le jeu à la flûte. Alors, il décrit d'abord la facture de flûte comme des instruments, en fait, très simples, qui sont faits en sureau, avec juste, je dirais, sureau donc est vidé, avec juste quatre trous, il dit uniquement là où les doigts se posent, quatre trous, et puis on les joue d'une manière oblique, en fait, un peu comme les neilles de Turquie ou de tout le bassin méditerranéen. Donc, on arrive à obtenir des sons en les soufflant comme des flûtes obliques. Il dit, comme on peut souffler des deux côtés, on a deux types de gammes, c'est-à-dire qu'on peut souffler d'un côté ou de l'autre. Donc, comme les trous ont été faits un peu au hasard, on a deux types de sons. Et il dit que les Indiens, quand ils en jouaient, ils grommelaient, ils chantaient de telle sorte à avoir un son, justement un bourdon. Il dit un peu comme le son des biniou. Donc on est exactement dans cette manière de faire fonctionner un instrument. Et apparemment, c'était assez systématique dans ces tribus amérindiennes de chanter tout en jouant de la flûte et d'obtenir ce type de grommellement et de bourdon.
Et alors, vous avez eu d'autres étudiants qui sont allés effectivement chercher d'autres flûtes que celles qu'on trouve immédiatement dans les conservatoires ?
Alors oui, je pense à Marine Goldwasser, qui, elle, c'est une grande spécialiste actuellement de la musique klezmer, qui joue aussi de la clarinette, et qui jouait de la clarinette d'ailleurs également avant d'arriver comme étudiante en flûte à bec à Lyon, mais qui s'est intéressée aux flûtes traditionnelles justement du monde tsigane, moldave, de Roumanie. et qui joue vraiment très très bien de ces flûtes traditionnelles roumaines. Et qui, elle a participé, Marine, en dirigeant l'ensemble. Elle a un ensemble qui s'appelle Miss Mash. Et elle avait participé au spectacle de Zingaro, du cabaret Exil, sur justement les Yiddish.
Merci beaucoup, Pierre Hamon.